Et nous nous sentions tellement bien ensemble, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur. Nous nous sentons d'ailleurs encore, bien sûr, bien ensemble dans la présence du Seigneur. Merci pour les chantres, les musiciens. J'ai demandé en effet ce matin de parler avant la Sainte Cène parce qu'il me semble, et je l'ai eu à cœur encore ce matin en me préparant, que le message qui est là sur mon cœur nous conduira aussi dans l'adoration, peut-être une réflexion par rapport à ce que nous allons faire tout à l'heure en prenant ensemble le pain et le vin. Et parce que le message qui est sur mon cœur ce matin, c'est je vais l'intituler ainsi, parce que tout simplement c'est ainsi qu'il est écrit dans la parole de Dieu, c'est le dessein éternel de Dieu. Le dessein éternel de Dieu. C'est en réfléchissant, en reméditant, en étudiant, une fois de plus, l'épître aux Éphésiens, une lettre magnifique, et que cette expression, en quelque sorte, a ressorti, si je puis dire, m'a interpellé, m'a bousculé, puisque c'est ainsi que Paul le dit, le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Hein, c'est Éphésiens 3, 11. Le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est donc cette expression-là, le dessein éternel. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi maintenant dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, et nous lirons du verset 3 jusqu'au verset 14, si vous voulez bien. Éphésiens chapitre 1er, du verset 3 au verset 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption, littéralement c'est jusqu'à la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Oui, c'est une longue lecture, oui. Il y a des expressions qui sont peut-être, disons, pas simple, hein, pas facile. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, hein, il y a énormément, énormément de choses qui sont dites dans ces versets-là. Et je vous rassure, hein, ne me regardez pas déjà avec un air un petit peu inquiet, je vous rassure, on ne va pas tout voir dans le détail. On ne va pas tout voir dans le détail parce que simplement, au travers de ce texte-là, je voudrais faire ressortir justement ce dessein éternel de Dieu. Et vous avez vu l'expression « avant la fondation du monde ». Ce grand dessein, ce grand plan, si vous préférez, de Dieu est suggéré là donc au verset 3, hein, où il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ». Ce matin, je vais employer, bien sûr, notre langage, le langage humain, le langage des hommes et des femmes de la terre. vais employer un langage de la terre pour, bien sûr, que nous nous comprenions les uns et les autres, mais pour parler des choses du ciel. Vous savez, c'est un petit peu ça notre problème. Quand nous lisons la Bible, quand nous lisons le Nouveau Testament, quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, c'est qu'on parle des choses qui sont dans le ciel, des choses célestes, des choses qui sont depuis l'éternité, si je puis dire, avec des mots qui parlent des choses matérielles, qui parlent des choses terrestres, des mots qui sont les nôtres, les humains. Et forcément, il y a des moments où on a du mal. Et bénissons Dieu pour le Saint-Esprit qui nous éclaire, hein, qui nous illumine, même, dira l'apôtre Paul, pour que nous puissions réaliser tout cela. Alors ce matin, j'emploierai ces mots-là, je parlerai de certains mots pour que nous puissions vraiment comprendre ce qui s'est passé. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que avant que quoi que ce soit n'existe, avant que quoi que ce soit n'ait été créé, avant même, je dirais, quoi que ce soit que Dieu ait fait pour nous ou pour la création, Dieu avait déjà un plan. Dieu avait déjà un plan. Il y a eu un grand conseil, si on peut dire, un conseil éternel qui s'est tenu entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le verset 4 nous dit quand ce plan a eu lieu, quand ce grand conseil s'est tenu. Il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Est-ce que nous réalisons vraiment que notre salut fut planifié avant que le monde, lui, fût planifié et créé? Avant qu'il n'y ait quoi que ce soit, notre salut déjà était prêt. Tout était déjà planifié. Et c'est la réalisation, c'est quand on réalise ce que Dieu a fait. Quand on réalise cela, ça nous pousse à louer Dieu. Hein, ce matin on l'a fait, c'était déjà formidable. Et quand on réalise ce que Dieu a fait, comment ne pas louer le Seigneur élu avant la fondation du monde? Mon frère, ma sœur, avant la fondation du monde, Dieu te connaissait et Dieu avait déjà tout prêt, tout prévu, tout préparé, tout mis en place pour que nous puissions être sauvés. Et plus que ça, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Quelle grâce! Les trois personnes divines dans ce conseil s'intéressaient en fait déjà à nous. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Comme, je disais, reprendre un peu ce langage un peu humain, mais avec révérence, bien sûr, pour parler en termes bibliques, il a tenu une conférence, en quelque sorte. Ils se sont concertés et ils ont planifié. Et il faut que nous laissions définitivement de côté, voyez, la pensée, l'idée que le salut est une réaction. Que le salut est une réaction, une idée venue après coup dans la pensée de Dieu. Après que l'homme ait chuté, après que Adam ait désobéi, après que Ève ait été séduite, Dieu a mis en place un plan. Non, c'était déjà tout fait. Dieu savait déjà tout ce qui allait se passer. Il a créé l'homme et il savait ce qu'allait faire cet homme. Il a créé, n'est-ce pas, le jardin, etc. Mais il savait tout ce que cela allait devenir. Et il l'a quand même fait parce qu'il nous aime. Laissons de côté, je répète définitivement, cette idée que le salut, eh bien, c'est quelque chose d'après coup. Ah, bon, eh bien, je vais envoyer mon fils pour que, eh bien, il puisse, par son sang, purifier leurs péchés. Non. Ce ne fut pas une pensée qui est venue à Dieu après que l'homme soit tombé dans le péché. Ça a été prévu, planifié, avant la fondation du monde. L'apôtre Paul nous dit que l'œuvre a été partagée entre les trois personnes de la Trinité. chacune, quelque sorte, convenant de s'engager dans une tâche particulière, dans un aspect particulier de ce salut. Le Père a planifié, le Fils, ben lui, il l'a opéré, le salut, et le Saint-Esprit l'a appliqué. Et il l'applique, bien sûr, encore aujourd'hui. Et c'est clairement démontré, vous voyez, dans notre texte. Un texte que, en lisant comme cela, je disais tout à l'heure, paraît tellement compliqué. Et en fait, on s'aperçoit, par exemple, que dans les versets 4 à 6, ben, il nous est parlé de la part du Père. Et des versets 7 à 12, c'est la part du Fils. Et puis ensuite, les versets 13 et 14 ben, nous montrent la part du Saint-Esprit. Et il y a une chose qui est surprenante, je ne sais pas si vous avez remarqué cela dans la lecture, c'est que dans chaque cas, après avoir parlé de ce que le Père a fait, ce que le Fils a fait, ce que l'Esprit fait et a fait, il y a une expression que l'on retrouve, c'est à la louange de la gloire. À la louange de la gloire, de sa grâce, ou une expression similaire, vous les trouvez au verset 6, au verset 12, et au verset 14. Le divin conseil, je répéterai souvent ça ce matin, mais le divin conseil, en fait, a examiné toutes choses avant la fondation du monde. L'œuvre fut planifiée et fut répartie de cette manière-là. Le Père a son dessein, le Fils, lui, dit qu'il va l'accomplir. Il est venu et il l'a fait. Et le Saint-Esprit, eh bien, lui, si je peux dire, a dit qu'il était prêt à l'appliquer. Il l'a fait et il le fait. Mais avant de poursuivre, il me faut ajouter ceci. Ce qui s'est réellement produit dans ce conseil éternel, c'est que Dieu dressa une grande alliance qu'on appelle, vous avez entendu ces expressions, l'alliance de la grâce ou l'alliance de la rédemption. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Pourquoi a-t-il agi ainsi? En guise de réponse, on va poser une question. Pourquoi l'apôtre Paul dit au verset 3, ça a été le début de notre lecture, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Pourquoi est-ce que Paul commence ainsi? Bien sûr, les deux premiers versets sont les salutations habituelles de Paul. Et puis quand il entre en quelque sorte dans le vif du sujet, première chose, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Certainement. Certainement parce que Paul veut que nous sachions quel genre de Père est Dieu. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, et pas que d'aujourd'hui, mais quand certains apprennent que Dieu est Père, ils ont du mal. Encore il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un m'a dit j'ai eu pendant des années du mal à appeler Dieu Père. Je ne pouvais pas appeler Dieu Père, et il m'a raconté ce qu'a été son enfance. Pourquoi donc ? Paul tout de suite dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Pour que nous sachions quel genre de Père est Dieu. Dieu dans sa bienveillance. Et afin que nous sachions quel genre de Père il est, dit « Je suis le Père du Seigneur Jésus-Christ ». Je suis le Père du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on connaît le Seigneur Jésus-Christ, on est heureux de savoir que Dieu est le Père. Le Fils est comme le Père. Mais ce n'est pas suffisant, ça va encore plus loin ici. En fait, c'est, j'allais dire, une nouvelle révélation, une nouvelle description de Dieu que l'on ne trouve que dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on trouve ce mot « pater », « père » en parlant de Dieu. Revenons dans l'Ancien Testament. Et nous verrons Dieu décrit comme le Dieu des pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est ainsi que Dieu se révèle à Moïse. Hein, lorsque Moïse voit cette vision quand même extraordinaire, un buisson qui est en flamme, mais qui ne se consume pas. Des buissons en flamme, Moïse en a vu, hein, dans le désert, avec le soleil, quand bien c'est sec, qu'il n'a pas plu, bien sûr, depuis belle lurette, et qu'un arbuste prenne feu, c'est pas rare. L'été, dans nos pinèdes, etc., on sait ce qui peut arriver. Mais ce qui est étonnant, ce qui retient son attention, son regard, c'est que, bon, le buisson est en flamme, mais il ne se consume pas. Il ne tombe pas en cendres au fur et à mesure, il reste un buisson. Ça l'interpelle, il s'approche, et comme il s'approche, Dieu lui dit, stop, arrête, ôte tes souliers, hein, vous connaissez ? Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, un lieu saint, etc. Et là, Dieu lui dit qui il est. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Israël ne connaît plus beaucoup Dieu. Depuis 420 ans, il est esclave d'Égypte. Bien sûr, il y a toujours la descendance, il y a toujours les choses que l'on a dit sur Dieu, mais en fait, on ne connaît pas Dieu vraiment. C'est le Dieu des pères, c'est le Dieu des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Un peu plus loin, quand Dieu dit à Moïse qu'il doit se rendre vers son peuple pour le libérer, Moïse dit « Oui, mais quand ils vont me dire qui t'envoie, je vais dire c'est Dieu, ils vont me dire mais qui c'est ?» Et Dieu lui dit, n'est-ce pas, « Eh bien, je suis celui qui suis. » Ça, c'est mon nom. Oui, mais quand ils vont me demander qui, quel Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Et Dieu dira tout simplement, encore au chapitre 3, au verset 15 du livre de l'Exode, eh bien tu leur diras le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et puis vous connaissez, n'est-ce pas, la suite? Et plus tard, lorsque le peuple est là dans le désert, Dieu va demander à Moïse de monter une deuxième fois sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu, sacrificateur, et puis 70 anciens parmi le peuple, de monter vers lui jusqu'à la montagne. Parce que là, il va parler à Moïse. Moïse le verra, montera lui seul jusque dans la présence même. Mais Dieu va se montrer. Dieu va se montrer à Moïse, Nadab, Abihu, Aaron, et aux 70. Et il nous est dit, n'est-ce pas, dans le livre de l'Exode, encore une fois, qu'il se révèle comme le Dieu d'Israël. Exode 24, 10 ou 34, 23. Ils ont vu Dieu, une représentation de Dieu, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Ils ont vu une théophanie, ils ont vu un Dieu d'une certaine manière. Mais ce que ce Dieu leur a dit, c'est « Je suis le Dieu d'Israël ». Ils ont vu le Dieu d'Israël. Mais maintenant, nous, eh bien, nous avons le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham, il a été, il l'est toujours, évidemment, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des uns et des autres, mais dans le Nouveau Testament, dans la révélation du mystère de ce dessein éternel de Dieu qui nous est révélé maintenant, eh bien, il est le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est afin de nous enseigner, vous voyez, que toutes les bénédictions qui nous sont accordées sont en et au travers du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, tranquillement chez vous, reprenez ce chapitre 1 et soulignez chaque fois que vous verrez en, par, etc., etc., en Christ, par Christ, etc., etc. Et vous allez voir le nombre impressionnant de fois où cela est marqué. Permettez-moi de vous dire que Dieu sait parler. Hein ? Dieu sait ce qu'il dit. Voyez-vous, pour certains, ça remonte peut-être assez loin, comme pour moi, mais quand nous avons fait ou nos études, ou en primaire, ou en secondaire, enfin, etc., collège, lycée, ou peu importe, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé que de temps en temps, il y avait quelques annotations dans un devoir, un exercice, une annotation où le professeur ou l'enseignant mettait répétition, répétition, répétition. Et c'est des fois curieux de voir que dans la Bible, eh ben Dieu se répète, Dieu se répète. Des fois, deux fois, trois fois la même chose en quelques lignes, etc. Mais je vous rassure, Dieu sait parler. Voyez ? Dieu sait, il parle le français, il parle l'hébreu, il parle le grec, il parle toutes les langues que vous voulez, il les comprend toutes, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et quand Dieu eh bien, dit ou a inspiré un écrivain pour dire quelque chose et qu'il se répète, ça vaut la peine d'y réfléchir. Ça vaut la peine peut-être, vous voyez, de se poser un moment et de réfléchir pourquoi est-ce que le Seigneur le répète. En vérité, je vous le dis. Par exemple, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Par exemple, pourquoi est-ce que le Seigneur le répète ainsi ? Ben, c'est afin de nous enseigner que toutes les bénédictions, je répète, qui sont en Christ, dans ce texte en tout cas, qui nous sont accordées, sont en Christ, au travers du Seigneur Jésus-Christ, et faisant partie de l'alliance qui fut faite, comme je disais, entre les trois personnes divines avant la fondation du monde. Même les bénédictions qui furent accordées au sein de l'ancienne alliance le furent au travers du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a existé, il s'est fait homme, mais avant d'être Jésus, si je puis dire, avant d'être incarné, Dieu le Fils existait. Dieu le Fils n'est pas venu à l'existence avec l'incarnation de Jésus. Il existait. Il est éternel. Le Fils est éternel autant que le Père et autant que le Saint-Esprit. Simplement, il s'est incarné dans la personne de Jésus, mais avant cela, ben, il existait. Et comme je l'ai dit, les bénédictions qui ont été accordées au sein de l'ancienne alliance l'ont été accordées en Jésus-Christ, au travers du Seigneur. Je devrais plutôt dire au travers du Fils. Avant la fondation du monde, Dieu a vu ce qui allait arriver à l'homme. Il a vu la chute. Il a vu le péché de l'homme qu'il allait devoir traiter. Et le plan fut élaboré, un accord fut passé entre le Père et le Fils. Le Père donnerait un peuple à son Fils. Et le Fils se rendrait volontairement responsable de ce peuple devant Dieu. Il s'est engagé à faire certaines choses pour ce peuple. Et Dieu le Père, de son côté, s'est engagé à en faire d'autres. Il a dit qu'il accorderait le pardon, la réconciliation, la restauration, une vie nouvelle, une nouvelle nature à tous ceux qui appartiendraient à son Fils, qui viendraient en quelque sorte se réfugier, se cacher en son Fils. Mais la condition pour que cela soit réalisable, c'est que le Fils vienne dans le monde et prenne sur lui la nature humaine, le péché de l'humanité pour en subir le châtiment. Et en quelque sorte se tenir entre deux, entre Dieu et nous, pour nous représenter et souffrir à notre place. Voilà l'alliance, voilà le traité qui fut fait. Et ça, avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Dieu pouvait parler de cela à Adam, dans le jardin d'Éden. Quand il lui dit que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Il le dit Il le dit à Satan, mais Adam l'entend. Dieu pouvait dire cela. Dieu pouvait dire, n'est-ce pas, à Satan, eh bien, tu blesseras la postérité de la femme, tu la blesseras au talon, mais elle t'écrasera la tête. Il pouvait le dire parce que c'était déjà prévu. C'était déjà préparé. C'était déjà tout prêt. Le dessein éternel de Dieu était déjà tout préparé. Plus tard, bien sûr, il y a eu certains arrangements supplémentaires, si je puis dire. Une alliance fut faite avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, comme je disais tout à l'heure. Mais ça, ce n'était pas les alliances originelles. L'alliance faite avec le Fils, ces alliances-là étaient temporaires. Elles étaient temporaires. Toutes ces alliances subsidiaires pointaient vers cette grande alliance, mais elle n'était pas cette alliance-là. Les types, les cérémonies, qu'est-ce que j'entends par les types ? Bien, vous aviez les agneaux qui étaient sacrifiés. Il y avait Melchisédek. Il y a encore tant d'autres choses qui nous laissent entendre que il y a là quelque chose qui est, en gestation. C'est pas la plénitude, le salut plein n'est pas là. Il ne sera qu'en Jésus-Christ. Mais tout est déjà prêt. Et si nous le regardons dans la Bible, il y a comme un sentier qui nous amène, qui nous conduit petit à petit vers la réalisation de ce plan éternel. Les cérémonies, les offrandes, les sacrifices, tout ça pointé vers Christ. Sinon, relisez l'Épître aux Hébreux. Et Paul dira, ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ et à son grand sacrifice. La loi qui a été donnée à Moïse n'a pas annulé l'alliance faite avec Abraham, qui à son tour, elle, ramène à la grande alliance traitée avec le Fils, mais ça, ça a été fait dans l'éternité. Et ainsi, nous commençons à voir pourquoi Paul dit « Le Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Dieu, avant le temps, avant le monde, a vu notre situation désespérée et a conclu un traité avec son propre Fils. Il a fait un serment. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, n'est-ce pas, il a fait un serment. Littéralement, hein, il a juré, mais dans le sens de serment. Hein. Il a fait un serment, il a signé, il a souscrit lui-même une alliance, il s'est engagé. Tout est en Christ. Il est notre représentant, notre médiateur, notre garant, notre caution. Toutes les bénédictions viennent en lui et par lui. Et qui peut réaliser ? Qui peut réaliser tout ce que cela signifie pour le Père ? Tout ce que cela signifie pour le Fils ? Tout ce que cela représente pour le Saint-Esprit ? Nous ne pouvons pas, parce que nous n'y étions pas. Mais ça, c'est l'Évangile. Et ce n'est que lorsque nous commençons à comprendre quelque chose de ce dessein que nous commençons à être les adorateurs en esprit, en vérité, que le Père demande. Comment est-on un adorateur en esprit, en vérité ? Ben, c'est pas parce que il y a un certain ordre dans le culte, parce que bien il y a tel type de chant ou de rythme ou etc. Parce que on fait ça comme ça et le reste autrement. Non, point du tout. On est des adorateurs en esprit et en vérité quand on a compris, quand on a réalisé et quand on est entré évidemment dans cette grande alliance. Dans le grand dessein, le dessein éternel de Dieu. Permettez-moi de dire ces choses ainsi, j'espère que je ne vais vexer personne. Mais nous, vous et moi, nous voici. Qu'est-ce qu'on est de misérables vermisseaux dans ce monde ? Misérables vermisseaux avec notre arrogance, avec notre orgueil. Avec notre épouvantable ignorance, nous ne méritons rien. sinon d'être effacé de la face de la terre. Et ça, c'est ce qui nous attendait. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avant la fondation du monde, le Dieu béni, les trois personnes divines bénies, nous ont considéré notre condition, ont considéré ce qui allait nous arriver, et la conséquence, c'est que ces trois personnes divines, c'est-à-dire Dieu, comme dit Paul, n'est-ce pas, 1 Timothée 6,16, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme ne peut voir ni n'a vu, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Ce Dieu-là s'est arrêté pour nous considérer et a planifié un moyen pour que nous puissions être pardonnés et rachetés, frères et sœurs. On ne parle pas d'une petite idole, d'une espèce de je sais pas quoi, de représentation d'une manière ou d'une autre, d'une image ou d'un objet. On parle du Dieu éternel, du Dieu puissant. Du Dieu tout-puissant, hein, immortel, inaccessible, que personne ne peut voir, etc., et qui nous a sauvés en Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est comme si le Fils avait dit, ben, je quitterai cette gloire pour un temps, parce que lui était dans la gloire, hein, Philippiens 2. Je quitterai cette gloire pour un temps. J'habiterai dans le sein d'une femme. Je naîtrai comme un bébé. Je me ferai pauvre. Je supporterai les insultes dans ce monde. Je leur permettrai de me cracher au visage et même de me clouer sur une croix. C'est de Dieu dont on parle. Il s'est porté volontaire à faire cela pour nous tous. Et en ce moment même, cette deuxième personne de la Trinité, le Fils, Jésus Christ, est assis à la main droite de Dieu pour nous représenter, frères et sœurs, vous et moi. Jésus a dit, je ne te prie pas pour le monde, mais je te prie pour eux. Il est descendu sur la terre. Il a fait tout ça. Il est ressuscité. Il est remonté au ciel. Et tout ça, c'était planifié avant la fondation du monde, pour vous et pour moi, frères et sœurs. Et aujourd'hui, eh bien, Jésus est assis, je le répète, à la droite du Père, mais avec un corps, et un corps glorifié. Et peut-être que vous n'aviez pas réfléchi à cela jusqu'à maintenant. Mais il y a quelque chose qui a changé. Le Fils n'avait pas de corps avant son incarnation. Il était esprit autant que le Père et le Saint-Esprit. Et il a pris un corps. Il s'est revêtu d'un corps. Il a vécu dans ce corps sur la terre. Et comme je le disais, le corps est mort, il a été enfermé dans le sépulcre, mais il est ressuscité le troisième jour. Et 40 jours après, eh bien, hein, il était élevé à la droite du Père, mais il a gardé le corps. En ressuscitant et en étant élevé, il n'a pas, et je ne sais pas, comme pour Moïse, il n'est pas allé enterrer ce corps quelque part dans un lieu secret, il est parti avec le corps, sauf que ce n'est plus le corps humain comme on l'entend aujourd'hui. Il est glorifié ce corps, c'est celui que nous aurons quand le Seigneur viendra nous chercher. Un corps glorifié, magnifique, mais il est dans un corps, frères et sœurs. Et quand l'Épître aux Hébreux, notamment, et d'autres textes, dit qu'il s'est sanctifié pour nous, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il s'est fait saint pour nous, parce que ça, il est de tout temps, de toute éternité. Ça veut dire qu'il s'est mis à part. Quelque chose a changé, frères et sœurs, à cause de nous, et par amour. Pour nous. Il s'est mis à part. Il est Dieu. Il est saint, il est glorieux, il est assis sur son trône dans les lieux célestes et tous les textes qui parlent aujourd'hui de sa position ne cessent de le dire. Mais n'oublions jamais, frères et sœurs, qu'avant de s'incarner, il n'avait pas de corps. Et aujourd'hui, on peut parler du corps glorifié du Seigneur, alléluia. Mais il l'a fait par amour pour nous. Il l'a fait par amour pour vous et pour moi. Et moi, dit le Saint-Esprit, je ferai ce que tu as prévu. Lorsque tout aura été accompli, alors je contesterai avec les hommes par ta parole. Je les convaincrai de péché, de justice, de jugement. Et lorsqu'ils se convertiront, lorsqu'ils se repentiront, qu'ils se convertiront, qu'ils seront lavés de leurs péchés, alors je les régénérerai. Je les ferai naître de nouveau. Et je ferai d'eux notre habitation, notre temple. Et je rendrai témoignage à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Et je les scellerai. Je les scellerai, n'est-ce pas? Jusqu'à la rédemption, jusqu'à l'avènement. Je les scellerai jusqu'à ce que l'heure fixée par le Père soit venue et que le Fils, alors, aille à la rencontre de son Église dans les cieux pour être toujours avec nous. Voilà, frères et sœurs, le dessein éternel de Dieu. N'est-il pas magnifique? N'est-il pas super? Est-ce qu'on peut dire encore que la théologie, on n'en a que faire? Qu'on n'a pas le temps de s'intéresser à tous ces termes techniques? On ne peut pas commencer à louer, à vénérer, à adorer Dieu en esprit, en vérité, tant qu'on ne commence pas à réaliser un tant soit peu de ce que Dieu a fait pour nous. Et je comprends que Paul puisse se dire « Béni soit le Dieu et Père » ou « Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Frères et sœurs, nous allons partager le pain et le vin. Je vais laisser la place aux frères maintenant. Nous allons partager le pain et le vin. Mais réalisons ce que Christ a fait pour nous. Réalisons ce que Dieu a fait pour nous. Le plan éternel de Dieu. Si ce matin nous pouvons nous réjouir de prendre le pain et le vin ensemble, c'est parce que tout a été accompli. Et quand on réalise ce que veut dire tout a été accompli, ce tout, ce dessein éternel, on ne peut être qu'un adorateur, en esprit, en vérité. Je vais laisser la place aux frères. Que Dieu vous bénisse.